Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Les innombrables crimes d'Epstein, pudiquement appelés « affaires », témoignent d'une collusion entre domination capitaliste et domination sexiste. En un sens, le terme d'affaires est juste, puisqu'il affirme que, dans ce monde de domination du masculin, le corps des femmes est, et a toujours été, une marchandise qui se monnaie. Une monnaie d'échange entre hommes puissants, assoiffés de jouissance, c'est-à-dire d'hommes incapables de se dominer, et par renversement, imposant la domination qu'ils refusent pour eux-mêmes au corps de l'autre. Capitalisme et domination des femmes ne sont pas seulement liés par le fait que le travail domestique invisible des femmes permet aux hommes de consacrer plus de temps et d'énergie à l'exercice de leur profession, avec les conséquences que l'on sait pour la vie professionnelle des femmes. Capitalisme et domination des femmes ne sont pas seulement liés par une hiérarchisation des pouvoirs où une minorité d'hommes récolte le fruit du travail d'une majorité d'hommes et de femmes, lesquels, par leur travail domestique, permettent que leur conjoint soit plus disponible pour celui qui l'emploie. Capitalisme et domination des femmes sont aussi liés par le fait que le corps des femmes et des enfants soit considéré comme une marchandise dont la valeur varie selon un certain nombre de critères, dont celui de la virginité. Qu'il s'agisse d'un choix conscient et alors définitivement cynique, ou d'un choix inconscient révélateur d'une fascination morbide pour la pureté, Epstein s'est voulu le propriétaire d'une des îles Vierges, où il a organisé un système de viol de toutes jeunes filles. Sur le marché des corps, qui ne sont rien d'autre qu'une monnaie d'échange, par un système de récompenses et de chantage, les corps vierges sont les plus cotés. Ce n'est pas seulement qu'il s'agit de se prendre pour un explorateur de terre vierge, ni même de renouveler la petite satisfaction d'être le premier. C'est, d'une part, qu'il s'agit d'être celui qui fait perdre à la jeune fille ou à l'enfant son intégrité physique et psychique, et ainsi de dupliquer l'assurance qu'on n'est pas celui qui perd, mais bien celui qui fait perdre. Et c'est aussi, dans la fascination pour la pureté, s'assurer qu'on possède une pureté réduite à son signe, la virginité. On se fait maître de la pureté, on se l'approprie en la détruisant. Au-delà même des crimes organisés en mafia, le scandale témoigne aussi d'un assujettissement de la justice à un système fondé sur l'argent. Ce n'est pas seulement à un criminel sexuel qu'on a affaire, ni même à une association de délinquants sexuels qui ont le pouvoir que donnent l'argent et le carnet d'adresse. Ce sont aussi les médias qui, même en plein scandale, focalisent leur attention sur les hommes coupables, dont les noms sont pourtant souvent caviardés, et non sur les femmes victimes, qui à la fois sont oubliées et exposées via la publication de leur identité. Ce sont les médias qui traiteront ce scandale au cœur du capitalisme comme un de ces nombreux scandales, au lieu de l'analyser comme le symptôme d'un système pathologique, et qui, de plus, l'oublieront bientôt comme s'il était une anecdote, alors qu'il est de structure. C'est encore la justice qui, loin d'être incorruptible, aménage les peines des plus puissants. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, écrivait déjà La Fontaine dans Les animaux malades de la peste. L'histoire n'est pas neuve, elle n'en est pas plus acceptable, mais nous avons avalé tant de couleuvres. La première condamnation du délinquant sexuel Epstein est réduite à 18 mois de prison suite à un accord judiciaire. Elle date de 2008, il y a presque 20 ans. Sur ces 18 mois, il en purge 13 dans des conditions de détention privilégiées au point qu'au bout de 3 mois, il obtient des permissions de 12 heures par jour, 6 jours sur 7. En 2015-2016, Virginia Roberts Giuffre obtient la réouverture médiatique de l'affaire en affirmant qu'elle a été utilisée comme esclave sexuelle. La réduction de l'autre à l'esclavage est une des caractéristiques de la domination, qu'elle soit sexuelle, colonialiste, raciale ou capitaliste. Si elle sévit dans des domaines différents, à des époques différentes, selon des modalités différentes, elle repose sur une même haine ou un même mépris, celui du féminin, qui n'est pas seulement, et d'ailleurs probablement pas, une haine des femmes. Ces jeunes femmes sont voulues, car on ne saurait écrire sans obscénité qu'elles sont désirées lorsqu'il s'agit de les violer. Elles sont voulues lorsqu'elles se soumettent ou sont soumises à une féminité construite pour le plaisir masculin. Ce qui est détesté, c'est le féminin. Un féminin extériorisé dans les femmes, assujetties, droguées, privées de leurs papiers d'identité, et qui peut alors être multiplement profané et construire à rebours l'image d'un masculin pur, débarrassé du féminin en lui-même, qu'il vient, dans le même mouvement, repossédé via le viol. Ce que disent ces réseaux pédocriminels et d'exploitation sexuelle des femmes, c'est le délire protéiforme d'une domination complète, par certains hommes auxquels l'argent donne un pouvoir d'achat illimité, de toute forme de féminin, par un masculin qui construit sa pureté par l'abomination. C'est dans ce système dont on aimerait pouvoir écrire qui se mord seulement la queue, dans cette circularité masturbatoire où le corps de l'autre n'est qu'un objet, que se déploie toute la perversité d'un système clos où rien ne doit être perdu et où tout doit rapporter. L'enregistrement des viols pour monnayer les chantages en est un corollaire. Les souffrances et supplications des adolescentes, un dommage collatéral comme le sont les bombardements sur les civils, partout où les puissants se font la guerre. Ce qui est méprisé, humilié et asservi, comme la preuve même de domination du masculin, c'est le féminin, c'est-à-dire, pour reprendre la définition de la philosophe Catherine Malabou, une dimension éthique présente chez tous les sujets. Et c'est effectivement cette dimension éthique que nie la domination du masculin, qui est majoritairement incarnée par des hommes. Pour le dire en d'autres termes, c'est l'histoire, à travers les siècles et les continents, d'hommes qui veulent, et souvent réussissent, à remplacer la loi par les récits qu'ils se racontent et imposent à tous les niveaux au reste de l'humanité. Cette volonté d'échapper à la loi et de s'en vouloir le maître, cette négation du symbolique ou son instrumentalisation, engendre une perversion systématique et systémique des relations intersexuelles, interraciales et entre les différentes classes sociales. Elle témoigne d'une vision de l'humanité qui n'ont pas produit des inégalités, mais se fonde sur elles. C'est à cette vision, à cette perversion, que nous sommes assujettis, depuis des siècles et partout dans le monde, et quelles que soient les formes variées sous lesquelles elles se déclinent. Dans cette société de l'imaginaire, rien ne fait plus référence externe. Lacan a théorisé l'imaginaire par le stade du miroir, celui où l'ego se forge, nécessaire image d'ensemble dans laquelle il s'agit pourtant de ne pas se perdre au risque sinon de s'y noyer, comme cela arrive à Narcisse. Savoir que l'ego est une construction et qu'il est susceptible de nous piéger dans une dépendance au regard de l'autre à qui on devrait plaire est utile pour qui ne veut pas être enfermé dans une relation duelle non seulement étouffante mais nécessairement vouée à la mort. Narcisse se noie. Nos adolescents sont sous l'emprise des réseaux, et notre liberté s'étiole à mesure que nous perdons notre espace intime et notre puissance d'action. Dans un monde où le symbolique se meurt parce qu'il est continuellement dénié et perverti par ceux qui ne se reconnaissent assujettis à rien, dans un monde où la parole est asservie au profit par ceux qui s'en croient les maîtres, alors même que nul n'échappe à son assujettissement et à l'essentielle ambivalence du langage, une opinion vaut une autre, et tout est noyé dans un relativisme qui ne trouve de butée que dans le réel de la force. Puritanisme et pornographie, loin de s'opposer, construisent alors un monde de domination où le corps est soit sanctifié et mort, soit profané et tué. Dans les deux cas, le corps n'est plus psychisme vivant mais marchandise. Lacan précise que la haine est rejet, expulsion archaïque de l'autre hors du sujet, et qu'elle constitue dans le réel ce qui subsiste hors de la symbolisation. Pour le dire en termes plus courants, la haine de l'autre est d'autant plus agissante que celui qui l'éprouve ne veut et ne peut rien savoir de la haine qu'il a de la part de lui, qu'il condamne comme impur. Et pour n'en rien savoir, il s'injecte sa dose régulière de pureté via des viols de toute jeune fille, via le viol psychique et physique d'enfants à qui il interdit pour longtemps ou pour toujours la possibilité de grandir et de quitter l'enfance, se garantissant à lui-même la certitude qu'il existe quelque part de la pureté et qu'il s'en est fait le maître et l'assassin. I'll go.